aujourd'hui à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30 temps universel du vendredi 3 août 2018. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. L'opposant congolais Moïse Katumbi tente de rentrer en RDC, mais son cortège est bloqué à la frontière zambienne.
Alors ils vont l'arrêter sur quelle base? C'est tout simplement la trouille, parce qu'ils ont peur que Moïse Katumbi ne vienne poser sa candidature.
Au Mali, au lendemain de l'annonce des résultats de la présidentielle, la campagne pour le second tour est lancée.
Le peuple malien s'est rabattu en fait, parce que vu les résultats qu'on a donnés, c'était pas des vrais résultats.
L'opposition zimbabwéenne rejette les résultats de l'élection présidentielle, donnant Emmerson Mnangagwa vainqueur. Le président sortant, lui, se défend, estime que sa victoire est légitime. Moscou dénonce les nouvelles accusations d'ingérence portées par les services de renseignement américains. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous. L'opposant congolais en exil, Moïse Katumbi, est toujours bloqué à la frontière entre la RDC et la Zambie. Il voulait rallier son fief de Lubumbashi par la route via la Zambie après que sa demande d'autorisation d'atterrir a été rejetée. Il est poursuivi par la justice congolaise sur plusieurs affaires, mais il dénonce une mascarade politique des autorités. Ses partisans estiment que le gouvernement veut l'empêcher de se présenter à la présidentielle. Les précisions d'Irénée Hermanoumbo.
Moïse Katumbi se trouvait à la mi-journée, selon ses proches, à quelques mètres de son pays natal, près de Kasumbalesa, sur la frontière zambienne. Une vidéo diffusée par son entourage le montre en train de saluer la foule depuis sa voiture. Les autorités congolaises auraient fermé la frontière. Monsieur Katumbi a indiqué les avoir pourtant informés de son arrivée. Autorisation de survol et d'atterrissage refusée par Kinshasa. Nous décollons en direction de Ndola pour prendre la route de Lubumbashi, a tweeté son porte-parole Olivier Kamitatou, un des 7 passagers partis ce vendredi matin en jet privé depuis Johannesburg. De Lubumbashi, l'état-major de la plateforme électorale voulait venir l'accueillir à la frontière, mais la route principale conduisant vers la Zambie était bloquée par un camion remorque avant le poste de péage qui marque la sortie de Lubumbashi. De même, des mesures de sécurité ont été prises dans la capitale économique de la RDC, où les commerces ont tout de même ouvert normalement. Au moins 2 barrages filtraient l'accès à l'aéroport de Lubumbashi et des véhicules anti-émeutes traversaient la ville par intermittence. Les forces de l'ordre ont dispersé plusieurs dizaines de partisans de Katumbi qui voulaient se rendre à l'aéroport en début de matinée à coups de lacrymogènes.
Et ce matin, notre correspondant à Lubumbashi, Narval Mabila, a recueilli la réaction d'un des proches de Moïse Katumbi. Le coordonnateur régional de la plateforme électorale Ensemble pour le changement, Kiyunguwa Kumwaza, estime que le pouvoir a peur d'affronter Moïse Katumbi aux prochaines élections.
Sur quelle base est-ce qu'ils vont l'arrêter? Parce que tous les dossiers de toutes les fausses accusations, tous les dossiers sont transférés à la Cour de cassation. Alors ils vont l'arrêter sur quelle base? C'est tout simplement la trouille, parce qu'ils ont peur que Moïse Katumbi ne vienne déposer son dossier, de poser sa candidature, ce qui est prévu. Alors, leurs chefs sont en train de trembler à cause de ça, parce qu'ils savent que personne ne pourra faire face aux élections à Katumbi, ici, au Katanga.
Kiyunguwa Kumwaza, coordonnateur régional de la plateforme électorale Ensemble pour le changement. L'Organisation mondiale de la santé a averti des énormes difficultés qui pourraient compliquer la lutte contre la nouvelle épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo. L'OMS indique que l'épidémie sévit dans une zone de guerre où les humanitaires ne se déplacent pas sans escorte armée. Le directeur général adjoint de l'OMS en charge des réponses d'urgence, Peter Salama, a indiqué que le risque pour la santé publique est élevé à l'échelle nationale et régionale, mais qu'à l'échelle mondiale, ce risque est actuellement considéré comme faible. Au Mali, dans une déclaration faite à son état-major de campagne, le candidat Soumaïla Cissé rejette les résultats de la présidentielle proclamée hier par le ministère de l'administration territoriale. Il dénonce des fraudes massives et des irrégularités qui ont entaché le vote. Il appelle à la création d'un vaste front pour le Mali. Le candidat Ibrahim Boubacar Keïta, lui, appelle à ses partisans à resserrer leur rang pour la victoire au second tour qui, selon lui, et proche. Kassim Traoré pour plus de détails.
À la suite de la proclamation des résultats provisoires du scrutin du 29 juillet dernier, une foule de militants était présente pour écouter le leader de l'opposition, Soumaïla Cissé, qui rejette les résultats provisoires proclamés par l'administration territoriale, alors qu'il est arrivé deuxième avec 17%.
Ces résultats ne reflètent pas les votes des Maliennes et des... Ils ne sont ni sincères ni crédibles. Ce sont des résultats de la fraude, d'un bourrage honteux des urnes en faveur du président de la République sortant. Pour la première fois dans l'histoire de la démocratie malienne, un président sortant est contraint à un second tour.
Le président Ibeka, arrivé en première position avec 41%, s'est adressé à ses partisans. Il leur a demandé de redoubler d'efforts car la victoire est si proche. Ibeka a tendu sa main à tous les autres candidats qui ne seront pas au second tour. C'est ainsi que la candidate Kanté Geneva Ndiaye a répondu à l'appel du président Ibeka. Elle déclare qu'elle soutiendra la candidature de Ibrahim Boubacar Keïta au deuxième tour prévu le 12 août prochain. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Nous reviendrons sur cette élection malienne en partie magazine. Restons sur le chapitre des élections. L'opposant zimbabwéen Nelson Chamisa rejette la victoire au premier tour du président Emmerson Mnangagwa. Ce dernier appelle à la paix et à l'unité pour, dit-il, construire ensemble un Zimbabwe nouveau pour tous. Les violences post-électorales ont fait 6 morts dans le pays. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Nelson Chamisa accuse la commission électorale d'avoir ignoré les preuves de fraude présentées par son parti. « Nous avons gagné », a martelé le candidat du mouvement pour le changement démocratique qui a déclaré une journée de deuil pour la démocratie. L'opposant s'exprimait peu après la dispersion par la police de journalistes rassemblés pour une conférence de presse qu'il avait convoquée. Le président Mnangagwa a de son côté affirmé avoir gagné en toute transparence et n'avoir rien à cacher. Il a aussi critiqué la violente intervention des policiers contre les journalistes rassemblés par son principal adversaire. « Il n'y a pas de place pour de tels actes dans notre société », a déclaré le chef de l'État zimbabwéen qui a appelé à l'ouverture urgente d'une enquête au sujet de ces violences policières. Face aux allégations de fraude, un réseau zimbabwéen d'observateurs a exhorté la commission électorale à publier sur son site internet les résultats par bureau de vote de la présidentielle de lundi.
Au Nigeria, 21 personnes, dont 4 enfants, ont perdu la vie dans l'état de Sokoto, dans le nord du pays, lorsque leur embarcation a chaviré. Ces personnes tentaient de regagner leur village après en avoir été chassées par des groupes armés il y a quelques jours. La Russie a assuré que sa présence militaire en Centrafrique ne visait qu'à former les forces locales sans participer au combat, une réaction qui fait suite à l'assassinat de 3 journalistes russes qui enquêtaient sur la présence d'une société militaire privée russe dans ce pays.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie a qualifié d'hystérie qui ridiculise les États-Unis les accusations d'ingérence russe dans le processus électoral américain, alors que les services de renseignement ont accusé de nouveau Moscou de continuer à interférer dans la vie politique américaine. Nathalie Barche.
Non seulement cette hystérie qui dure depuis 2 ans autour de la prétendue ingérence russe qui n'a jamais eu lieu sape les relations bilatérales, mais elle ridiculise tout le système politique américain, a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Marga Zakharova, lors d'une conférence de presse. Cette déclaration intervient alors que des hauts responsables américains ont accusé la Russie hier de continuer ses tentatives pour affaiblir et diviser les États-Unis. La menace est réelle, elle continue et nous faisons tout notre possible pour avoir des élections en lesquelles les Américains puissent avoir confiance, avait déclaré le chef des services de renseignement, Dan Coats, à 3 mois du scrutin parlementaire de mi-mandat. L'ingérence présumée de la Russie à la présidentielle de 2016 fait l'objet d'une enquête, qualifiée de chasse aux sorcières par Donald Trump, tandis que Moscou a fermement rejeté ces accusations à maintes reprises.
Aux États-Unis, le taux de chômage a baissé à 3,9% en juillet, tandis que les créations d'emplois ont nettement diminué avec une hausse des salaires toujours tenue, selon les chiffres du ministère du Travail publiés ce vendredi. Et puis la Chine s'est dite prête à adopter de nouveaux droits de douane sur les importations de biens américains à hauteur de 60 milliards de dollars par an, ce qui risque de créer une nouvelle escalade du conflit commercial entre les deux grandes puissances. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place maintenant à l'actualité économique. C'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manelekiza.
Le gouvernement gabonais veut réduire la masse salariale pour atteindre un objectif global d'économie de 70 milliards de francs CFA d'ici la fin de l'année. Libreville a annoncé avoir démasqué en juillet plus de 6 000 fonctionnaires fictifs. La présidence djiboutienne a rejeté la décision de la Cour internationale d'arbitrage de Londres qui lui a donné tort dans son différend avec Dubaï sur le terminal de conteneurs de Doralé. La Cour a déclaré illégale la saisie par le gouvernement de Djibouti de ce terminal et confirmé la validité de l'accord de concession et son caractère contraignant. Fin février, Djibouti avait résilié le contrat de concession du terminal de Doralé attribué à Dubai Ports World, DP World, estimant que ce contrat contrevenait à la souveraineté nationale du pays. La Chine s'est dite prête à imposer de nouveaux droits de douane sur des importations de biens américains d'une valeur de 60 milliards de dollars. Il s'agit de représailles adoptées en réaction à la récente menace de la Maison-Blanche de relever de 10% à 25% les tarifs douaniers sur 200 milliards de dollars d'importations en provenance de Chine. Par ailleurs, le déficit commercial des États-Unis s'est nettement creusé en juin sous l'effet notamment d'une baisse des exportations de voitures et d'avions et d'une hausse des importations de préparations pharmaceutiques et de produits pétroliers. Les exportations dans le secteur des boissons et de l'alimentaire ont également baissé.
À présent, la page des sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonsoir.
Bonsoir, Abdourahmane Dia.
En football, un président de club sanctionné en Côte d'Ivoire.
Oui, le président du Stella Club d'Adjamé, deuxième division ivoirienne, Salif Big Togo, a été suspendu 2 ans de toute activité relative au football. C'est ce qu'a annoncé la Fédération ivoirienne de football. Salif Big Togo avait le 9 juillet affirmé qu'une somme de 3,8 milliards de francs CFA a été sortie des caisses de la FIFA sans justificatif et qu'il s'agissait d'un blanchiment d'argent, réfutant ainsi les justifications données par le vice-président de la FIFA, Sori Diabaté, lors d'une assemblée générale tenue le 23 juin.
Ahmed Moussa signe au club saoudien d'Al-Nassri.
Oui, il avait fait sensation au dernier mondial. La star du football nigérien, Ahmed Moussa, champion d'Afrique des Nations en 2013, a quitté le club anglais de Leicester, où il n'était jamais parvenu à s'imposer et s'est engagé pour 4 ans en Arabie Saoudite avec Al-Nassr. Al-Nassr, troisième du championnat d'Arabie Saoudite lors de la dernière saison, n'a pas dévoilé le montant de la transaction.
On parle de chaos dans l'organisation des championnats africains d'athlétisme au Nigeria.
Oui, athlètes bloqués dans les aéroports, problèmes de visa, infrastructures inadaptées. Le plus grand chaos règne dans l'organisation des championnats africains d'athlétisme prévus du 1er au 5 août à Asaba, dans le sud-est du Nigeria, scandalisant la toile et les équipes participantes. Des photos des dizaines d'athlètes africains dormant sur leurs bagages dans des aéroports d'Abuja ou de Lagos, tantôt parce qu'ils n'arrivaient pas à obtenir leur visa, tantôt parce qu'il n'y avait pas assez d'avions pour rallier Asaba, ont fait le tour des réseaux sociaux depuis lundi.
Allemagne aux îles absolument pas victime de racisme au sein de la Mannschaft, selon Manuel Neuer.
Le capitaine de l'Allemagne, Neuer, a estimé que Mesut Özil, qui a claqué la porte de la Mannschaft en se disant victime de racisme, n'avait absolument pas été discriminé au sein de la sélection. On a beaucoup parlé des propos d'Özil et on a beaucoup écrit dessus. C'est évidemment un sujet qui a été très pénible pour ceux qui ont tout lu, a déclaré le portier du Bayern jeudi soir en marge d'un camp d'entraînement du Bayern Munich, selon des propos rapportés vendredi par la presse allemande.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com et on passe au dossier du jour. L'opposant congolais Moïse Katumbi tentait de rentrer dans son pays en provenance de son exil en Afrique du Sud. Il se trouvait toujours à la mi-journée à quelques mètres de son pays natal à Kusambalesa sur la frontière zambienne. M. Katumbi veut déposer sa candidature à la présidentielle du 23 décembre avant la date butoir du 8 août. Pourtant, les autorités ont facilité le retour de Jean-Pierre Bemba après son acquittement par la CPI. Alors pourquoi Kinshasa se montre inflexible avec Katumbi? Pour analyse, Eric Manirkiza a joint à Bruxelles Henri-Désiré Zouzi, il est consultant diplomatique.
D'abord, c'est une inflexibilité qui est incompréhensible. Dès lors que ce même gouvernement, les autorités estiment qu'il y a un mandat d'arrêt contre Moïse Katumbi, le meilleur moyen d'exécuter ce mandat d'arrêt, c'est de le laisser tout simplement rentrer comme il le souhaite. Et à ce moment-là, eh bien, il se mettra à la disposition de la justice. Or, ce à quoi on a assisté aujourd'hui notamment, eh bien, c'est un spectacle pathétique qui donne une image extrêmement déplorable de la manière dont précisément ce processus a été engagé depuis le début par les autorités congolaises. Et cela n'augure absolument rien de bon en termes de décrispation politique. Nul, en tout cas, n'intéresse qu'il y ait des violences. Je pense qu'il y a suffisamment de bon sens pour que l'on puisse faire en sorte que les procédures soient respectées. Toute la difficulté consistera en fait à trouver un moyen d'apaiser les tensions de manière à ce que le processus électoral ne déraille pas à cause de cet antagonisme entre Moïse Katumbi et le régime de Kinshasa.
Pourquoi Kinshasa aurait peur de M. Katumbi? Est-ce qu'il pèse énormément?
Je ne me prononcerai pas sur sa popularité, je préférerais plutôt me prononcer sur sa capacité financière à mener une campagne présidentielle sur toute l'étendue du territoire. Et de ce point de vue-là, force est de remarquer, en tout cas de reconnaître, qu'il est probablement le seul à l'heure actuelle au sein de l'opposition à pouvoir mettre les moyens suffisants pour mener campagne. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a travaillé pendant pratiquement 10 ans avec le président Kabila en sa qualité de gouverneur de la province du Katanga. Donc c'est quelqu'un qui forcément est au courant de beaucoup de choses. Certes, sa gestion peut donner lieu à un droit ou à un devoir d'inventaire, mais c'est l'adversaire le plus dangereux aux yeux du pouvoir de Kinshasa.
Mais Jean-Pierre Bemba, il a de l'argent aussi.
Écoutez, je ne pourrais pas me prononcer à sa place, mais je peux par ailleurs m'avancer en disant que les 10 années qu'il a passées à la CPI n'ont pas forcément été une bonne chose pour lui, d'autant qu'on a vu arriver politiquement une nouvelle offre politique, de nouvelles dynamiques se sont mises en place. Il est revenu avec le succès que l'on connaît. Il doit donc reconstruire une image qui a été d'une certaine manière altérée par ce long séjour donc à la CPI. Il faudra simplement, je pense, qu'il puisse se réorganiser en conséquence pour pouvoir mener une campagne digne de ce nom, dans l'hypothèse évidemment où sa candidature serait acceptée et validée par la CELI.
C'était Henri-Désiré Zouzi, consultant diplomatique joint à Bruxelles.
Nos infos sur voaafrique.com.
Au Mali, le second tour de l'élection présidentielle opposera le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, qui a obtenu 41,42% des suffrages exprimés au premier tour, au chef de l'opposition Soumaïla Cissé, qui est lui crédité de 17,80% des suffrages. L'opposant a toutefois affirmé ce vendredi qu'il n'accepterait pas les résultats qu'il a qualifiés de ni sincères ni crédibles. À son quartier général de campagne à Bamako, ses militants abondent dans le même sens. Écoutons Yeri Bokoum, l'un de ses partisans.
En réalité, le peuple malien s'est rabattu en fait, parce que vu les résultats qu'on a donnés, c'était pas des vrais résultats en fait. Le pays était sous chaos. Tout le monde croyait qu'il y avait déjà une crise qui était déjà lancée. Du moment où tous les activistes, les grandes associations, les leaders, les personnalités ont rejoint le camp de Soumaïla Cissé et voir que le président Ibrahim Boubacar Keïta, il a fait 41% avec ce score, fleuve, nous on n'est pas d'accord avec ce score, donc on demande à ce qu'on récompense, on demande à ce que l'opinion l'opinion nationale et internationale intervient à ce résultat. C'est le bourrage des urnes.
Et du côté du camp du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, on rejette toute accusation de fraude électorale. Écoutez, Kansoutou Sidi Bé de la campagne d'Ibrahim Boubacar Keïta.
J'ai un grand respect pour M. Soumaïla Cissé, mais je pense que M. Soumaïla Cissé doit accepter la voix du peuple. Il doit accepter la voix du peuple comme tous ces candidats qui sont venus et leur demander gentiment de venir s'allier avec le RPM et l'ADEMA et le EPM pour pouvoir travailler et construire ce pays. Le Mali n'a pas besoin d'hostilité. On est dans un pays de paix, on a toujours été un pays de paix. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est dans le Nord. Et pourquoi ce problème est là? Ce n'est pas Ibeka. Ibeka est venu trouver ce pays dans l'instabilité totale. S'il faut, soyons honnêtes, c'est ce que je demande à tous les partis de venir s'allier avec Ibeka pour pouvoir finir tous ces problèmes-là. Parce que sincèrement, on ne peut pas continuer comme ça.
Les propos de Kansoutou Sidi Bé et un peu plus tôt Yeri Bokoum ont été recueillis à Bamako par Jacques Aristide.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
Dans un rapport confidentiel, l'Union européenne s'alarme de la situation politique et sociale de la Côte d'Ivoire avant la prochaine élection présidentielle de 2020. Et les mots ne sont pas tendres envers Abidjan. Dérive autoritaire du pouvoir, corruption, flagrante inégalité sociale. Bagasikoura a joint à Abidjan l'analyste politique André Silver Conan. Pour lui, ce rapport qui tombe au mauvais moment pour le régime n'est pas surprenant.
L'Union européenne n'a fait que traduire enfin une situation que vivent les Ivoiriens depuis un bon bout de temps, que nous essayons justement de façon certes timide, que nous essayons de relever et qui malheureusement ne rencontrent pas, si vous voulez, la bonne oreille du pouvoir.
Le rapport parle de la situation économique et du niveau de pauvreté qui reste quand même assez élevé malgré la croissance.
Oui, si vous voulez, c'est l'un des paradoxes. Et l'Union européenne a tellement bien résumé ce constat par le fait que c'est une façade rassurante, mais les signaux incitent à la vigilance. Voilà, c'est, si vous voulez, c'est la méthode Ouattara qui est en train de s'effriter. C'est une méthode qui consiste jusque-là à présenter des apparats, voilà, à être dans l'apparence. On fait des réformes structurelles en direction de certains bailleurs de fonds, mais ces réformes structurelles ne sont pas suivies des résultats probants pour la population.
On a vu quand même un taux de croissance assez fort. Qu'est-ce qui n'a pas marché et est-ce qu'on peut encore corriger le tir sur le plan économique?
Moi, je pense que ce sera difficile parce que c'est toute une méthode qui s'effrite et depuis un bon bout de temps, depuis plusieurs années d'ailleurs, nous, personnellement, nous essayons d'attirer l'attention des gens sur le fait que la méthode n'est pas bonne. Première chose, Alassane Ouattara a visé, si vous voulez, les données macroéconomiques. Il a voulu mettre tout au vert. C'est bien, c'est beau. Sauf que, voyez-vous, je prends l'exemple très précis, par exemple, du tribunal du commerce. On installe le tribunal du commerce pour, par exemple, pouvoir avoir accès à des programmes comme le Millennium Challenge Corporation et autres. Mais une fois qu'on a mis en place le tribunal du commerce, eh bien, il faut que les juges, les magistrats qui sont au tribunal du commerce puissent donner de bonnes décisions. Mais c'est là où le bât blesse.
Et Ouattara aussi était censé lutter contre la corruption en Côte d'Ivoire. Apparemment, c'est un échec si on se fie à ce rapport.
C'est un échec total. Alors là, je peux le dire sans risque de me tromper que c'est un échec total, cuisant, palpable, révoltant à la limite. D'autant que là encore, la méthode Ouattara a consisté à structurer la lutte contre la corruption. Première chose, on crée une brigade de lutte contre la corruption qui n'a jamais arrêté personne. On crée donc une unité de lutte contre le racket au niveau de la police. On crée une haute autorité pour la bonne gouvernance. On renforce une inspection générale de l'État. Voyez-vous, on structure la lutte contre la corruption pour montrer aux bailleurs de fonds, à la communauté internationale, que voilà ce que nous faisons pour la lutte contre la corruption. Ça encore, c'est une stratégie de façade.
C'était l'analyste politique André Silver Conan, joint à Abidjan.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Tchad, les autorités judiciaires ont requis le blocage des comptes bancaires de 5 entreprises nationales. C'est à la demande de l'inspection générale d'État suite à la mission de contrôle de recouvrement dans ces institutions. André Colmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point depuis N'Djamena.
Les entreprises qui sont dans les collimateurs de l'inspection générale d'État sont les brasseries du Tchad, manufacture de cigarettes du Tchad, société de téléphonie mobile Millicom Tchad, société de manutention du Tchad et société nationale du ciment. Pour permettre de mener à bien ces investigations, l'inspection générale d'État a demandé et obtenu du parquet de grande instance de N'Djamena des réquisitions spéciales pour le blocage provisoire des comptes de ces sociétés. Une décision qui n'est pas sans conséquences. Les brasseries du Tchad frappées par ces réquisitions ne sont pas en mesure de payer le salaire du mois de juillet à leur personnel. Colère du délégué des employés des brasseries du Tchad, Lou Adom Gardomte Blanchard.
Nous en appelons à l'intervention de la plus haute autorité du pays pour un déblocage rapide de cette situation pour nous permettre d'avoir nos salaires. Nous considérons cet acte du procureur de la République comme un sabotage de la vie de 500 employés, desquels dépendent plusieurs familles tchadiennes.
Pour le sociologue Bédé Félix, ces réquisitions sont des moyens de pression pour l'inspection générale des de contraindre ces sociétés à payer ce qu'elles doivent à l'État afin de donner un bouquet d'oxygène au trésor public. Toutefois, il reconnaît que cette décision aura une conséquence d'envergure sociale.
Notre plaidoyer, c'est de voir comment faire à ce qu'il n'y ait pas de dégâts sociaux collatéraux d'une décision légitime de justice. Est-ce que les employés ont le droit de dénoncer une décision de justice quand elle est motivée? Par contre, ils ont le droit de se plaindre. Et je crois que les deux parties peuvent rapidement se retrouver pour décanter la situation. On a déjà trop souffert. Hein. Il faudrait plus que d'autres mauvaises gouttes d'eau viennent s'ajouter déjà à la coupe sociale qui est pleine.
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de N'Djamena, Youssouf Tom, justifie cet acte d'une simple collaboration avec l'inspection générale d'État. Pour lui, ces réquisitions sont provisoires et ne doivent en aucun cas poser problème.
Qui dit provisoire, normalement, ça ne doit pas mettre du temps. Mais si les employés de la BDT parlent de la mauvaise foi du parquet d'instance de N'Djamena, c'est pas faire preuve d'honnêteté intellectuelle, parce que tant que c'est pas une décision de justice, la banque ne peut pas obtempérer. Moi, je l'ai fait comme je le ferais pour toute autre institution étatique habilitée à diligenter des enquêtes.
Ces entreprises doivent à l'État tchadien plusieurs milliards de francs CFA. Le Conseil national du patronat tchadien dénonce cette décision et craint le risque d'une perturbation avec des effets réels sur la croissance économique, la compression des salariés et la fermeture de certaines entreprises sous-traitantes dans les jours à venir. André Kodmadingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'information. Les nouvelles du monde, le suivi de l'actualité africaine, des reportages, des interviews et des analyses sur les sujets qui vous concernent. En direct de Washington, nous décryptons pour vous la politique américaine. Le Monde aujourd'hui, du lundi au vendredi à 17h30, 18h30 et 19h30 temps universel sur VOA Afrique. Retrouvez-nous également sur notre site internet voafrique.com et sur Facebook. À bientôt.
Voilà, merci d'avoir suivi cette édition du Monde aujourd'hui. À la mise en onde, il y avait Lionel Gaïma. À la console, Wojtek Zorniak. Présentation, Abdourahman Dia. Ainsi va le Monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Restez en compagnie des programmes de VOA Afrique. Au revoir.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique,